France Culture, 7h-9h. Les matins du samedi, Quentin l'a fait.
La petite bourgeoisie culturelle, que regroupe et qui regroupe cette notion complexe et mouvante? Comment comprendre son déclin dans la France contemporaine depuis plusieurs décennies en réalité? Pour en parler, je reçois ce matin Élie Guéraud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université de Clermont-Auvergne. Vous êtes chercheur associé à l'INED et vous avez fait paraître Le déclin de la petite bourgeoisie culturelle aux éditions Raison d'agir. Et pour commencer, comment est-ce que vous définissez cette notion complexe, je le disais, de petite bourgeoisie culturelle?
Alors, la petite bourgeoisie culturelle, elle se définit par un ensemble de positions professionnelles, artistes, journalistes, enseignants, travailleurs sociaux qui ont en commun, en fait, la détention de ce que Pierre Bourdieu appelait le capital culturel, donc de certaines ressources culturelles, de l'attrait vers des pratiques sociales et culturelles qui sont caractérisées comme étant contestataires. Alors voilà, Pierre Bourdieu cite notamment le jazz, le rock, l'art contemporain à la fin des années 70. Bon, aujourd'hui, bien sûr, ce répertoire doit être actualisé. Et donc cette petite bourgeoisie culturelle se caractérise en fait à la fois par ses positions sociales et par un certain style de vie, avec une position, on pourrait dire, d'intermédiation dans la société entre les classes populaires et les classes supérieures.
Avant de comprendre son émergence, sa structuration aussi, expliquez-nous la postface de votre livre le raconte. Pourquoi cette notion-là est souvent péjorative? On parle de bourgeois en petit, de profiteurs du capitalisme, d'anti-héros. Qu'est-ce qu'il y a de péjoratif dans cette notion de petite bourgeoisie culturelle?
Alors, dès l'origine de la notion, petite bourgeoisie, il y a effectivement quelque chose de péjoratif. Alors, quand Pierre Bourdieu l'emploie dans les années 70, on sent aussi qu'il y a une dimension un peu critique, sur cette petite bourgeoisie qui chercherait à imiter la bourgeoisie. Bon, moi, l'usage que j'en fais, il essaie d'être moins polémique que ça, et surtout de se démarquer d'une notion de classe moyenne qui apparaît plus neutre de prime abord, mais qui, me semble-t-il, et c'est d'ailleurs ce que défend Nicolas Renaï dans la postface, en fait, est tout aussi connotée, parfois négativement, parfois positivement, que petite bourgeoisie. Voilà, en tout cas, l'idée de petite bourgeoisie, c'est de pas isoler ce groupe social et de vraiment le penser de manière relationnelle par rapport à des groupes sociaux supérieurs que sont les différentes fractions de la bourgeoisie et par rapport du coup aux classes populaires. Donc venir rappeler petite bourgeoisie comme ça permet bien de penser les classes sociales de manière relationnelle.
Votre travail, Élie Guéraud, est d'abord et avant tout un travail de terrain, un travail sur le terrain même, je dirais. Où est-ce que vous l'avez rencontré, cette petite bourgeoisie culturelle?
Alors, l'enquête de terrain que j'ai menée, donc c'était une enquête de thèse, donc qui s'est étalée sur un certain nombre d'années, environ 5 ans, pour être précis. Il a été réalisé dans une ville qui est anonymisée dans le livre. Donc c'est une manière de respecter l'anonymat des enquêtés, mais aussi de rappeler que la ville moyenne, dans laquelle j'ai réalisé mon enquête, qui est une ville moyenne qui présente des caractéristiques semblables à beaucoup de villes moyennes. Donc on est sur une agglomération d'environ 50 000, 60 000 habitants. C'est la préfecture d'un département rural qui est caractérisé par une forte présence de l'État. Encore aujourd'hui, on est à presque 24% d'emplois publics dans cette ville, mais une présence de l'État qui est déclinante face à ce que les géographes appellent le retrait territorial de l'État. Donc par anonymiser cette ville, que j'appelle donc Lergne dans le livre, ça permet aussi de rappeler en fait que cette enquête de terrain, elle peut être généralisable en fait à beaucoup d'autres villes moyennes qui partagent ces caractéristiques-là.
Alors partant de là, Élie Guéraud, racontez-nous l'émergence aussi, la structuration progressive en France dans les années 60-70 de cette petite bourgeoisie culturelle. Comment est-ce qu'elle émerge ?
Alors une enquête au long cours comme ça permet de faire aussi un peu de socio-histoire et d'inscrire l'histoire de ce groupe social dans le temps long. Et donc vous avez raison de faire remonter cette histoire aux années 60-70. Bon, les années 60-70, c'est des décennies où va s'organiser le développement de l'État, les politiques culturelles de Malraux. Et donc c'est le moment où on va avoir une explosion des effectifs, des salariés attachés aux fonctions, aux fonctions éducatives, aux fonctions sociales, aux fonctions culturelles de l'État. C'est aussi le moment, alors surtout dans les années 70, des premières grandes victoires des listes d'union de la gauche dans certaines municipalités, alors notamment avec ce que les politistes appellent la vague rose de 1977. Et donc, voilà, ce groupe social va émerger numériquement, va aussi prendre de l'importance politiquement, mais aussi symboliquement. Voilà, il va devenir de plus en plus visible dans l'espace public, voilà, prendre la parole. C'est aussi, voilà, dans les années 70 et dans la décennie aussi 1980, la naissance de tous les grands festivals qu'on peut connaître, voilà, aujourd'hui. Je sais pas, moi, le Printemps de Bourges, le Festival international de court-métrage de Clermont-Ferrand, etc., etc.
Vous vous intéressez donc particulièrement dans ce livre, non pas à l'émergence, mais au déclin de cette petite bourgeoisie culturelle. De quand peut-on dater ce déclin et qu'est-ce qui vient percuter, au fond, l'hégémonie toute relative de cette classe sociale ?
Alors, dater le déclin, c'est quelque chose de très compliqué pour bon, au moins deux raisons. La première, c'est que voilà, moi, l'enquête que j'ai menée, elle repose sur un lieu. Voilà, cette ville de Lerne dont j'ai dressé rapidement le portrait. Et voilà, d'un territoire à l'autre, les choses ne sont pas forcément semblables. Bon, le dater ce déclin, c'est compliqué parce que c'est aussi différents phénomènes qui ne vont pas forcément arriver au même moment. Mais je pense qu'on peut en citer plusieurs. Hein, voilà, la question de l'austérité, de la réduction des dépenses publiques qui vont directement affecter hein, ces groupes sociaux attachés à l'État. Donc voilà, les politiques d'austérité ne sont pas nouvelles. On pourrait même faire remonter finalement les premières voilà au tournant de la rigueur de Mitterrand. Bon, aujourd'hui, on vit une période, une actualité voilà marquée par une nouvelle cure d'austérité. Donc on voit en fait que dès les années 80, on a des premières politiques d'austérité qui s'accentuent aujourd'hui et voilà qui portent préjudice à cette petite bourgeoisie. On a la question de la défaite ou de la perte d'influence dans le champ politique des différentes forces de gauche. Voilà, là aussi qui n'est pas un phénomène nouveau mais qui tend à s'accentuer dans la période contemporaine.
Et notamment vous le racontez les défaites successives du socialisme municipal et national, vous pointez une autre tendance, l'érosion du pouvoir, je vous cite, quasi monopolistique dont l'école avait pu auparavant disposer en la matière. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette érosion et son influence sur le déclin de cette petite bourgeoisie culturelle ?
Oui, bien sûr. Alors, cette expression, en plus, je la reprends à Philippe Coulangeon, hein, qui est sociologue de la culture, des pratiques culturelles, qui défend cette idée dans son travail. Donc voilà, l'idée de Philippe Coulangeon, c'est de montrer comment, bah, justement, dans ces années 60-70, au moment de la première massification scolaire, bah, l'école va prendre en tant qu'institution une place considérable, notamment parce qu'elle va s'adresser en fait à une part des nouvelles générations beaucoup plus importante qu'auparavant. L'idée de Philippe Coulangeon, c'est de montrer bon comment voilà cette influence de l'école sur la société va se prolonger et comment aujourd'hui elle peut être considérée comme alors peut-être pas en crise, le mot est trop fort, je sais pas si Philippe Coulangeon serait d'accord avec ça, mais voilà comment ce pouvoir-là après plusieurs décennies d'expansion tend à stagner, voire à se réduire dans certaines fractions de la société. Voilà, c'est la principale idée de Philippe Coulangeon que je reprends et qui, il me semble, est liée à la fragilisation de ce groupe social que j'appelle la petite bourgeoisie culturelle.
Comment est-ce que les membres de ce groupe réagissent à ce déclin ? Vous examinez notamment dans cet ouvrage les conduites de sociabilité, c'est ainsi que vous les appelez. Comment cette petite bourgeoisie culturelle, au fond même, réagit par rapport aux autres groupes, aux autres classes sociales ?
Alors, le risque, en fait, de cette fragilisation, c'est ce que j'essaie de pointer dans le livre, c'est de se tourner, en fait, vers ce qui est commun, ce qui permet de réunir, en fait, de faire front face à l'adversité. Donc, faire front face à l'adversité, ça se traduit par exemple, le rejet, ou en tout cas une certaine défiance vis-à-vis des autres groupes sociaux, c'est se réunir vers ce qui est maîtrisé, ce qui est commun. Donc notamment voilà un certain style de vie, certaines pratiques culturelles, certaines opinions politiques. Dans le fond, ce que j'essaie de faire avec difficulté, parce que c'est un vrai travail d'équilibriste, c'est de pointer une forme de repli. Repli identitaire, je trouve ça un petit peu fort, mais en tout cas une forme de repli vers ce qui est connu, ce qui est maîtrisé face à cette fragilisation, ce qui voilà, peut fonctionner comme un cercle vicieux, dans le sens où plus ce groupe social se replie sur lui-même, plus il peut nourrir aussi la défiance des autres groupes sociaux, et donc accentuer aussi ce déclin symbolique. Hein. Voilà ce que Nicolas Rénaï dans la Postfaste appelle voilà, un droit d'exister, une légitimité face aux autres groupes sociaux.
Quel impact, vous avez commencé à l'évoquer, mais quel impact sur le vote de cette petite bourgeoisie culturelle? Comment est-ce qu'il a évolué au cours des 3-4 dernières décennies?
Alors, cette petite bourgeoisie culturelle, en tout cas dans le cas de la ville de Lergne, hein, voilà, où j'ai aussi travaillé à partir des résultats, bureau de vote par bureau de vote, sur différentes élections, on peut donc regarder ce qui se passe dans les bureaux de centre-ville, là où cette petite bourgeoisie culturelle est la plus présente. Bon, on voit un effondrement en fait, hein, du vote pour les différentes forces de gauche, au profit de l'abstention, essentiellement. Et donc voilà, on a en fait un désalignement d'une partie des membres de cette petite bourgeoisie culturelle. Alors quand on travaille aussi par entretien, quand on discute voilà, avec les gens pour leur faire raconter un peu leur rapport à la politique et comment au fil des années, des décennies a évolué leur vote, on voit du coup aussi voilà apparaître une forme de désillusion très très forte, bon, qui est je crois pas le spécifique hein, à cette petite bourgeoisie culturelle qui gagne en fait des pans vraiment considérables de la société, mais qui touche aussi ce groupe social, alors même qu'il s'agit voilà d'un groupe qui détient du capital culturel, qui est plutôt acquis à la légitimité démocratique, et donc qu'on attendrait voilà investi dans une pratique politique comme le vote.
Merci beaucoup Élie Guéraud de cet éclairage. Je rappelle que vous êtes sociologue et vous venez de faire paraître aux éditions Raison d'agir, le déclin de la petite bourgeoisie culturelle.